Vous êtes sur Easy French.
Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, exceptionnellement, Judith n'est pas avec nous, mais il y a quelqu'un pour discuter avec moi et je vous propose de l'accueillir. Salut Josh.
Bonjour.
Alors Josh, vous le connaissez peut-être, il est apparu dans plusieurs de nos vidéos YouTube. C'est un ami depuis un petit moment déjà, mais peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Donc présente-toi si tu veux.
Bonjour à tous, je m'appelle Joshua, je viens de l'Inde. J'ai déménagé en France il y a 7 ans. Je suis venu ici pour des études et j'ai fait quelques stages avant de commencer ma vie active à Paris. Je travaille actuellement chez L'Oréal dans le monde de gestion de données, donc assez informatique. Et je passe pas mal de temps en montage vidéo pour ma chaîne YouTube où je parle de ma vie en France et de mon apprentissage des langues.
Super. Alors, comme vous vous en doutez, les amis, aujourd'hui, avec Josh, nous allons nous pencher plutôt sur l'aspect apprentissage du français plutôt que sur les autres aspects de ta vie, même si L'Oréal, c'est très intéressant.
C'est une belle boîte.
Mais je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec nos auditeurs sur ton parcours d'apprenant du français et d'étranger en France. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Le sujet de la semaine. Alors, Josh, tu as mentionné que tu vis en France actuellement, que tu y as emménagé il y a 7 ans. Et donc, j'aimerais bien qu'on commence peut-être par le début de ton histoire. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené ici en France?
Je ne sais vraiment pas. Je ne crois pas que ça soit un événement précis lors d'une petite période. C'était un choix qui s'est présenté comme ça. J'étais un bénévolat en Inde pour une association française où ils accueillent les écoles de commerce et les écoles d'ingénierie en Inde pour aller voir les étudiants qui voudront étudier en France. Et j'étais bénévolat et à un moment donné, on m'a demandé si je voudrais aussi un jour étudier en France et je ne me suis jamais posé la question. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? J'ai postulé et je l'ai eu. Je voulais toujours apprendre le français. Je me suis dit que je vais le faire en Inde. J'avais déjà commencé quand j'étais étudiant en Inde, mais c'était pas non plus énorme comme niveau. J'étais pas bilingue, j'étais loin d'être natif. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé.
Génial. Donc c'était pas vraiment prévu. Ça s'est présenté comme ça et tu as saisi cette opportunité qui s'est présentée à toi et tu es donc venu étudier en France. Alors, qu'est-ce que tu as étudié en France et où est-ce que tu es arrivé? Dans quelle ville?
Je suis arrivé à Lille pour faire une licence de management chez EDEC. C'est une école de commerce. J'ai passé 2 ans à Lille pour mes études. Et entre ces 2 ans, il y avait une année de césure, gap year, où on était censé faire des stages pour justement pouvoir trouver un travail plus tard.
Ah, c'est génial ça. C'est un super système d'avoir une année de césure entre les 2 années, parce que j'imagine que tu as gardé ton statut étudiant, donc tu pouvais continuer de profiter des avantages de ce statut et en même temps, tu pouvais commencer à construire ton CV, tes expériences.
C'est exactement ça. Et tu peux aussi décider jusqu'au dernier moment ce que tu voudrais faire comme spécialité pour la 2e année, un peu influencé par ton expérience professionnelle.
D'accord. Et donc, quand tu étais à Lille, à l'école, est-ce que tu as appris le français de manière plus intense que quand tu étais en Inde?
Alors, pas du tout. En école de commerce, c'était très speed. Il y avait beaucoup de choses à faire et tous les cours étaient en anglais. Donc, on parlait en anglais avec les professeurs et les autres élèves. Mais aussi, il y a des Américains, les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, les Indiens, qui parlent bien l'anglais. par rapport aux étudiants français, disons. Donc, eux aussi, ils ont envie d'améliorer leur niveau d'anglais parce que c'est la langue vraiment importante dans la vie de business. Donc, c'est pas vraiment le français qu'on utilise au quotidien. C'était plutôt l'anglais parce que eux aussi, ils avaient envie d'améliorer leur niveau de l'anglais. J'avais pas vraiment cette opportunité, mais je me forçais tous les jeudis soirs à aller aux événements. Il y avait un en particulier qui s'appelle Blabla. C'est un événement où les étrangers viennent apprendre ou se présenter pour voir pratiquer le français et les francophones viennent pour pouvoir le faire inversement en anglais.
Ouais, ça existe dans beaucoup de villes. À Paris, je vois souvent les pubs pour cet événement et les gens viennent. Et je crois que le principe, c'est tu mets une étiquette avec ton prénom et les langues que tu as envie de pratiquer. Et tu peux comme ça aller voir les gens et voir qu'une personne parle une langue que tu veux pratiquer. Et donc, tu vas lui parler, etc.
Exactement, c'était ça. J'étais même un organisateur pendant quelques mois parce que je voulais absolument m'entourer des Français qui parlent français avec moi et c'était pas le cas à l'école de commerce.
Ok, donc ça c'est déjà une bonne astuce, je pense, pour vous les amis, si vous n'avez pas beaucoup d'occasions de pratiquer le français au travail ou à l'école ou à la maison, assister à des événements en français, c'est une bonne idée. Et je pense que même si on ne vit pas dans des pays francophones, des événements comme ça, polyglottes, plurilingues, existent. Et donc, on peut y rencontrer des personnes francophones. Mmh. Donc ça, c'était une première chose qui t'a aidé, j'imagine, pour apprendre le français. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce que tu avais d'autres méthodes, d'autres manières de t'immerger dans le français et d'essayer de progresser dans cette langue ?
J'étais assez ambitieux dans ma tête, mais c'est vrai que avec le gros changement et choc culturel, je dis pas que c'était négatif, hein, mais un changement reste un changement. Il faut savoir s'adapter et ça prend un peu de temps et de l'énergie. Et du coup, j'ai pas vraiment pu me consacrer à l'apprentissage du français lors de la première année. J'étais assez ambitieux pour vouloir étudier et travailler plus mon français, mais c'était pas vraiment une réalité pendant la première année. Pour moi, j'ai pas vraiment avancé dans mon parcours français. À la fin de mon première année, je me suis dit que si je parle pas la langue française, déjà, je peux pas dire que je suis fort en langue, que j'aime les langues. Je peux pas dire ça. Je vais perdre cette possibilité de m'appeler une personne qui aime les langues. Mais à part ça, ça va être vraiment difficile pour trouver un travail en France. Parce que la langue française rend la vie en France largement plus facile pour tout ce qui est papier administratif, pour trouver un appartement, pour se faire des amis. C'est vraiment important d'apprendre la langue française. Même si au travail, vous pouvez vous débrouiller avec l'anglais, et il y en a beaucoup qui le font, mais ils ne se sentent pas chez eux. À un moment donné, ils se disent « je ne trouve pas ma place ici, je n'ai pas mes amis ici et je voudrais rentrer chez moi ». Et pour éviter ça, il faut apprendre le français. Et du coup, à la fin de ma première année, j'ai pris une décision un peu radicale. J'ai décidé d'aller travailler et vivre dans une ferme.
Effectivement.
J'y suis allé pour un mois en fait. J'avais un abonnement sur un site internet et j'ai trouvé une ferme qui était d'accord pour m'accueillir et je suis allé avec un sac à dos et une bouteille d'eau. À la fin du premier mois, j'avais pas encore trouvé mon stage à l'époque, c'était juste avant que mon année de césure commence. Et tout le monde était soit en Inde chez eux ou en train de faire un voyage autour du monde. Et moi, j'étais dans une petite ferme en train de parler en français avec tout le monde. Mais à la fin du premier mois, je me suis dit, je vais rester une deuxième. Et finalement, je suis resté 3 mois. Dans la ferme, les gens ne parlent pas l'anglais du tout. Ce sont des gens qui parlent uniquement en français. Et la dame qui m'accueillait voulait apprendre l'anglais. Donc, on faisait les cours d'anglais presque toutes les semaines, mais les cours d'anglais étaient en français, que je devais préparer moi. Et c'est ça qui était vraiment difficile, parce qu'un adulte, un homme de 25 ans, avec une barbe, qui comprend rien, de chez rien, qui sait pas s'intégrer, qui comprend pas ce qui se passe, qui sait pas s'exprimer, c'était un peu dur quand même. Ouais. Mais les gens étaient très patients. Ça m'a beaucoup aidé. Après 3-4 semaines, j'ai commencé à m'exprimer dès le début de la matinée en français. Et c'est ça pour moi qui a vraiment fait la différence pour ma langue française.
Waouh ! Bon alors, je ne sais pas si c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Je pense que c'est une décision hyper courageuse et audacieuse et aussi qui correspond à ta personnalité parce que on se connaît assez bien. Donc, je sais que tu es une personne extravertie, une personne audacieuse, qui n'a pas peur, qui aime prendre des décisions radicale et faire des choses un peu extrêmes, mais dans le bon sens du terme, évidemment.
C'est intéressant de voir ton point de vue sur moi, parce qu'on ne parle pas de ça, tu vois.
C'est vrai. Mais tu vois, si je ne savais pas que tu avais vécu cette expérience dans la ferme et que quelqu'un m'avait dit « je connais une personne qui a fait ça », je me serais dit « c'est quelque chose que Josh pourrait faire ». Mais ni moi ni Judith, par exemple, je me permets de parler pour elle, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on aurait osé faire, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, tu arrives dans un environnement où les gens ne te comprennent pas, où tu ne les comprends pas, où il y a une différence culturelle évidente, où peut-être tu pourrais être rejetée même, et c'est un danger en fait, presque. Psychologiquement, je veux dire, c'est un risque de vivre un rejet, de vivre vraiment des difficultés culturelles importantes. Je pense que je le conseillerais pas à tout le monde, mais vraiment à des gens qui sont un peu audacieux, qui sont extravertis, qui ont pas de mal à communiquer, qui ont pas de problème à être un peu gênés, qui ne se sentent pas bloqués par des difficultés de communication, etc. Si déjà on a peur d'aller à un cours de français dans sa ville, par exemple, parce qu'on a peur d'être la seule personne qui ne connaît pas les autres, etc. Si déjà ça, c'est inquiétant, alors je conseille pas d'aller tout seul dans une ferme à la campagne en France quand on ne parle pas bien la langue.
Franchement, c'était très très fun. Après, ouais, comme tout, il y a des hauts et des bas, mais c'était très très fun. On sortait assez souvent, on est allé visiter un peu partout autour de où j'habitais dans la ferme, c'était à côté de Nancy. Je suis allé voir la ville natale de Jeanne d'Arc. Tout ça, c'est vraiment des anecdotes, une période de ma vie que je peux raconter avec beaucoup de fierté. Et avec ces gens, je suis toujours en contact. D'ailleurs, demain matin, je vais à la ferme,
oh, wow,
les retrouver, parce que ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Et je vais rester 4-5 jours, voir un peu tout le monde, cuisiner avec tout le monde, parce qu'il y a un peu de rayon soleil en France en ce moment, et revenir mardi, mercredi prochain. Donc, ce sont des connexions que tu gardes pour la vie.
Ouais, ouais, c'est incroyable. Et c'est des choses que tu aurais jamais faites avec d'autres étrangers, ou même avec des Parisiens d'ailleurs.
Non, je crois que ce lien, tu ne peux pas juste créer, même si tu passes 4-5 ans avec tes collègues françaises, parisiens disons. Ce n'est pas contre les Parisiens que je dis ça, mais tu vis plutôt 4-5 heures au travail et c'est fini. Mais ici, quand tu es logé chez eux, tu manges avec eux, tu sors avec eux, tu travailles avec eux et tu fais ça 3 mois, c'est largement plus profond ces 3 mois par rapport à 4 ans dans une grande ville avec des collègues.
Ouais, je pense que tu as tout à fait raison, absolument. Bon, alors, quelque chose d'un peu moins fun peut-être, mais très utile pour nos amis qui nous écoutent. J'aimerais te demander, si tu te souviens, comment tu as fait concrètement pour devenir étudiant en France? Quelles ont été les démarches que tu as dû entreprendre?
Il faut de l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, il faut prendre un crédit. Il faut savoir ce que tu veux faire comme travail à la fin, parce que c'est ça qui va influencer le parcours que tu vas prendre. Mais une fois que tu as décidé que c'est cette école d'ingénierie, commerce ou ainsi de suite, une fois que tu as décidé, ou il y a 4-5 écoles que tu voudrais, où tu voudrais postuler, après il y aura sûrement un concours. Parce que les bourses sont influencées par ces concours. Donc, il faut se préparer pour un concours. C'est beaucoup de maths et la langue. Il faut soit avoir de l'argent ou prendre un peu de crédit, deuxièmement. Et troisièmement, il faut avoir un peu cette clarté de ce que tu veux faire.
Ok, c'est déjà pas mal comme info, je pense. Et c'est important que tu aies mentionné l'argent. Dans beaucoup de cas, assez indispensable. Ou parfois, on peut avoir des bourses qui sont suffisantes, mais ce n'est pas toujours le cas.
Oui, j'ai eu pas mal de bourses moi aussi. J'ai eu 60% de réduction en total. Même après cette réduction, ça représente quand même 18 000 euros. Je suis à l'aise à partager ces chiffres parce que à l'époque, je me souviens que je le cherchais et personne n'en parlait ouvertement. Donc, dans ma chaîne YouTube aussi, je parle de ça ouvertement. Combien ça a coûté? Comment j'ai fait pour le financer? Comment j'ai fait pour le rembourser? Combien de temps j'ai mis et tout ça? En tout, ça m'a coûté 18 000 euros pour les 2 ans d'études plus tout ce qui était loyer, tout ça. À Mionand, on avait la possibilité de demander 25 000 euros et de leur indiquer que 18 000 euros, je suis sûr que je vais les prendre. Et ça se trouve que la différence entre 25 et 18, je vais peut-être pas les prendre. Je pouvais dire ça.
Ok, super intéressant. Donc, je mettrai dans les show notes de l'épisode un lien vers une ou deux de tes vidéos où tu expliques ces choses-là plus en détail, si vous voulez aller voir ça, les amis. Et je pense que ces vidéos sont en anglais aussi.
C'est ça, Ils sont tous en anglais, oui.
Donc, pour vous, les amis, peut-être, si vraiment vous cherchez des infos précises et que vous voulez bien tout comprendre, ce sera peut-être encore mieux. Mais on a plein d'autres choses à se dire en français. Donc, si tu veux bien, on va continuer. On ne va pas s'arrêter là. Alors, les amis, restez bien avec nous. Les amis, si vous rêvez d'être aussi à l'aise en français que Josh, mais que pour vous, s'installer en France, ce n'est pas vraiment dans vos projets, vous pouvez quand même vous immerger dans la langue française, mais depuis chez vous. Et pour cela, on a quelque chose à vous recommander, c'est le sponsor de cet épisode, Lingopie. Lingopie, c'est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres bilingues et interactifs. Donc, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir la traduction, les sauvegarder sur des flashcards et les réviser plus tard sous forme de quiz. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres interactifs. Ça vous tente? Alors passez par notre lien lingopie.com/easyfrenchpodcast. Vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Et si vous restez, vous bénéficierez de réductions exclusives qui vont jusqu'à 73% pour l'abonnement à vie et 55% pour l'abonnement annuel. Alors profitez-en!
La Minute Culture.
Josh, on a commencé à parler un peu du travail en France, mais on a seulement abordé le sujet. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous parler un peu plus en détail de la culture du travail en France du point de vue d'un étranger. On a déjà parlé beaucoup avec Judith dans ce podcast de la culture du travail en France. Mmh. On vous mettra le lien d'ailleurs, les amis, de cet épisode. Mais ça m'intéresse de connaître ton point de vue d'étranger. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans notre culture du travail qui te plaisent et d'autres qui te plaisent moins?
Il y a sûrement des choses qui me plaisent. C'est pour ça que j'aurais peut-être choisi un autre pays, sinon, parce que je vais peut-être exagérer pour certains, mais pour moi, c'est vraiment un endroit idéal pour travailler.
Ouais.
C'est difficile à trouver mieux, à mon avis. Pourquoi je dis ça? Au niveau qualité de vie et niveau combien de temps tu passes au travail, pour le même travail, pour le même salaire ici par rapport aux autres pays, pour moi, c'est très, très respectueux. Et j'ai entendu ça quand j'avais commencé ma vie professionnelle en France. Il y avait une personne de mon équipe qui m'ont partagé ça. Oublie pas que l'ouvrier est roi en France. Et de l'entendre comme ça et de vraiment le vivre où les gens sont respectés pour leur travail, pour moi, c'est vraiment un point fort où on est très, très loin de l'exploitation, en tout cas par rapport à mon travail dans mon secteur. Après, ouais. Ça se trouve que ça existe ailleurs, mais en tout cas, moi, je ne le constate pas. Donc, ce côté-là, j'adore.
Donc, c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs dans notre épisode sur le travail. Les employés ont énormément de droits en France et ça ne suffit pas d'avoir des droits. Encore faut-il qu'ils soient respectés. Et en France, c'est donc bien le cas. Les droits des employés sont respectés.
Même une question de dignité. Par exemple, en Inde, pour se couper les cheveux, se coiffer le soir, si je vais vers 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, je vais trouver quelqu'un qui va être en train de travailler pour me couper les cheveux. Mais en France, à 19h, c'est fermé. 19h, 19h30, grand max. Ça te pousse de prendre un peu de temps avant d'aller les voir, parce que eux aussi, ils ont leur famille. Eux aussi, ils ont une vie. Et c'est ça pour moi, la dignité. De leur laisser le temps de famille, de leur laisser le temps d'aller prendre un apéro, cuisiner avec la famille. Pour moi, c'est ça, la dignité. Et j'apprécie ça beaucoup.
Après, il y a bien sûr les gens qui travaillent dans la restauration, les bars. Là, c'est autre chose, mais ils ont des horaires décalés, on va dire.
Oui, mais j'ai travaillé moi aussi dans la restauration. Il faut que je dise, c'est comme ça, c'est le business, c'est comme ça. Il faut que tu travailles le soir aux restaurations. Mais pour vous dire, quand j'étais à Lille, je travaillais dans un petit sandwich bar où je faisais des sandwichs et je travaillais 4 heures par jour, mais je gagnais 900 € par mois pour ces 4 heures et je travaillais pas le week-end. Mmh. Juste pour relativiser, c'était 350 € le loyer à Lille. Quand tu es un peu loin de la ville, c'était 350 €. Ces chiffres, c'est pas possible à Mumbai, par exemple.
Ouais.
Mais à Lille, c'était possible. Donc oui, il fallait travailler les horaires où tu voulais profiter avec tes amis, ça c'est vrai. Mais ceci dit, il y a une récompense. C'est-à-dire que tu ne travailles que 4 heures pour ce paiement.
Ouais, c'est bien d'avoir une perspective, de voir qu'ailleurs, c'est peut-être pire, pas comme ça.
C'est ça.
Et sinon, plus dans la relation avec les collègues, avec les gens, les clients, la hiérarchie, comment ça se passe en France? Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à d'autres pays, selon toi?
On m'a dit qu'on va être hyper hiérarchique et formel au travail, mais j'ai fait 3 sociétés en France jusqu'ici, des sociétés assez grandes, et je ne l'ai pas trouvé comme ça. Avec mon manager, on s'est toujours tutoyé, on était toujours à l'aise, on sortait à manger ensemble assez souvent, avec les gens qui sont assez haut placés hiérarchiquement parlant. Donc j'ai pas vraiment trouvé ça, même si c'est un cliché que l'on peut trouver en ligne, qu'on est hyper hiérarchique en France. Ça se trouve que ça existe quelque part, mais moi en tout cas je l'ai pas croisé. Donc il y a ça. On est beaucoup dans le second degré avec les collègues, et ça j'avais besoin d'un peu de temps pour m'habituer, pour le comprendre et pour pouvoir aussi participer. Parce que c'est ça qui fait que tu commences à avoir un lien avec tes collègues. Si tu participes pas, tu es un peu loin. Moi, je suis hyper cash. Je viens de l'Inde où on est hyper cash. Même les blagues sont assez cash. Mais ici, le second degré, c'est vraiment quelque chose. Ça montre que tu es proche à quelqu'un. Donc, c'était intéressant.
Donc, peut-être pour expliquer un peu, parce qu'on m'a déjà posé cette question des étrangers, qui ne savent pas ce que ça veut dire, le second degré. Le second degré, c'est un peu quand on dit quelque chose, mais qu'on ne veut pas vraiment dire ce qui est dit. Il y a une manière de comprendre la chose qui est ironique, en fait. C'est un peu comme l'ironie.
Mmh. Mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est même pas vrai. C'est juste pour rigoler. Si je prends un exemple d'un collègue qui travaille assez dur, qui est impliqué dans le projet, ça pourrait arriver qu'un autre collègue passe et dire « Ah, pour une fois que tu travailles ». Il n'y a pas un message caché que ce mec-là, il est feignant. Il n'y a pas ce message. Ouais. Mais c'est juste l'humour entre eux deux pour montrer qu'ils sont proches. Pour comprendre, j'ai mis un peu de temps quand même.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a parlé aussi dans un autre épisode sur l'humour français. Et c'est vrai qu'en France, on a cette culture de beaucoup se taquiner, faire des petits pics comme ça. Et quand on ne connaît pas cette culture, on peut être blessé. Mmh. Ou se dire « la personne ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais en fait, au contraire, ça montre que la personne a envie de créer un contact. Et c'est ça. Comme ça qu'on commence à créer du contact. Et c'est vrai que dans le monde du travail, c'est très présent.
C'est ça. Je me souviens, 15h30, j'ai parti de mon travail. C'est tôt, hein, 15h30 pour partir de son travail. Mais j'avais parlé avec mon responsable, c'était pour voir le dentiste. Un collègue m'a dit « Ah, tu prends la matinée ?» Pour lui, c'était une blague. Mais moi, c'était un peu casseur. Je me suis dit, occupe-toi de tes oignons, laisse-moi tranquille. Tu vois? Mais en fait, le message caché qu'il voulait faire passer, c'était que je veux être cool avec toi, je veux être pote avec toi, je veux être à ce niveau de faire des blagues avec toi. Et moi, je ne l'ai pas du tout capté.
Ouais, c'est subtil, hein.
Ouais.
Donc voilà, si vous travaillez en France et qu'on vous fait des remarques, des réflexions qui semblent un peu vexantes, le prenez pas tout de suite personnellement, c'est probablement une blague. Eh ben, on va continuer. J'ai encore des petites questions à te poser, alors j'espère que tu es prêt à y répondre.
Voyons voir.
Au défi.
Dans cette rubrique, c'est une rubrique toujours un peu curieuse, mais bien sûr pas trop. Hein. L'idée, c'est de te demander si tu pouvais revenir 7 ans en arrière avant de partir en France. Est-ce que tu ferais les choses différemment ou est-ce que tu choisirais la même école, la même ville?
Ça va peut-être pas être très intéressant comme réponse, mais j'adore beaucoup ma vie. Du coup, je voudrais pas changer un petit chouïa dans le passé. Faire des amis au début, c'était compliqué. C'était rien à voir avec moi. C'était juste que je devais m'adapter avec la culture. Et ça prend un peu de temps et c'est pas personnel. La culture en Inde, on est assez informel très très vite et on est entre guillemets intime plus vite qu'en France. Et je me suis dit que je trouverais jamais ma place ici. Je me suis cassé beaucoup en disant que je m'intégrais jamais. Et c'était, à mon avis, c'était pas nécessaire. Si je savais où je suis aujourd'hui, j'aurais dit à Josh il y a 7 ans, calme-toi, ça va aller. C'est censé prendre un peu de temps, ça va aller.
Ouais, ça, je pense que c'est important, effectivement. Tout prend du temps. Apprendre la langue, ça prend du temps. Se faire des amis, ça prend du temps. Se sentir à l'aise, ça prend du temps. Et c'est vrai que j'ai vu déjà des personnes me dire « Oh là là, ça fait 6 mois que je suis en France et je ne parle pas encore français. Mmh. À chaque fois, je leur dis, mais 6 mois, c'est rien. Ça peut prendre peut-être 2-3 ans pour vraiment se sentir à l'aise dans une langue,
oui.
Même plus. Mmh. C'est pas parce que tout de suite, c'est pas bien que ce sera jamais bien.
Déjà, si cette personne se plaint avec un oulala, je me dis qu'elle parle bien le français déjà.
C'est vrai. Bon, bah écoute, hein, tant mieux. Hein, si tu changerais presque rien, écoute, franchement, pas du tout ennuyeux comme réponse, au contraire. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de rappeler que les choses prennent du temps et que ça ne sert à rien de se culpabiliser, de se mettre trop de pression. C'est normal que tout n'arrive pas tout de suite.
Mmh.
On va continuer à parler un peu de la culture française dans la section suivante. Alors, restez bien accrochés.
Je râle, tu râles, nous râlons.
On a commencé à l'évoquer un peu peut-être, mais il y a des choses sans doute dans la culture française, que ce soit au niveau de la nourriture, du travail, des codes sociaux. Il y a sans doute des choses qui sont moins agréables que d'autres. Bon, tu as décidé de vivre ici, donc c'est qu'il y a majoritairement des choses que tu apprécies, sans doute. Mais si on creuse un peu, qu'est-ce qui te dérange?
Tu veux vraiment savoir, hein?
Ouais.
Parce que je ne suis pas très râleur, mais...
Pas très français, tout ça. Hein.
Je ne suis pas très, très français, non. Pas encore. Ce que j'ai un peu de mal à accepter, c'est ce côté second degré dont je parlais tout à l'heure. Quand c'est fun, c'est génial. C'est-à-dire, quand c'était une blague, c'est génial. Parce que tu vois que la personne est à l'aise avec toi. Mais il y a aussi le côté ne pas vouloir avouer. C'est quoi vraiment le message derrière? Donc, au niveau feedback au travail, je trouve qu'on est moins cash en France par rapport aux États-Unis ou en Inde. J'ignore que j'ai rien compris. J'ai compris tous les mots français. Mais le message souhaité derrière, je l'ai complètement ignoré. Et ça m'arrive très souvent. Même quand je parle bien la langue, même quand je suis bien intégré dans la culture, et les managers ne sont pas dans cette démarche de vouloir vous feedbacker tout de suite, même quand je prends un peu de temps pour faire un point, en discuter, ils vont pas tout de suite aborder la partie négative, disons, la partie constructive. Et ça, je trouve un peu efficace. Mais après, c'est peut-être ma éducation indienne, anglo-saxon, disons, qui me fait dire ça. Tout de suite, quand je travaille avec un non-français, un allemand, un néerlandais, un anglais, un indien, un américain, même un sud-américain, je vois tout de suite que on peut être franc sans blesser la personne. Mais je vis pas ça avec des collègues français.
Ouais, ça m'étonne pas. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est vrai que les messages ne sont pas toujours très clairs. Et quelqu'un te dit « c'est bien », toi tu as entendu « c'est bien », mais ce que la personne voulait dire c'est « c'est pas très bien », c'est
ouais.
Juste « bien », donc tu dois encore travailler.
C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ça va. Je me dis quand j'entends ça, ok, rien n'a changé alors. Mais non.
Mais le message c'est pas assez bien, donc il faut encore améliorer. Ouais, c'est très subtil.
Et si on creuse, demander qu'est-ce que tu aurais fait pour l'améliorer, à ce moment-là, la personne ne se sentirait pas culpable d'être franc. Après, comme tout, il y a des cas où les gens sont plus francs que d'autres, mais bon.
Ok, bah intéressant, ouais. Et autre chose?
Niveau nourriture, et là, je vais me faire virer de la France, OQTF direct. Niveau nourriture, je pense que la France est très fort en tout ce qui est pâtisserie, en tout ce qui est dessert. Tout ce qui rentre dans le four, les Français sont top. Mais sur la poêle, ça va pas. C'est mon avis à moi parce que j'ai l'habitude de manger épicé. Même la nourriture italienne qui n'est pas si relevée que la nourriture indienne, j'apprécie plus que la nourriture française.
Ouais, je comprends. Bon, alors les amis, si vous allez en France, achetez tout ce qui sort d'un four. Les boulangeries, ça va, mais le reste, on est plus méfiant. Bon, on va terminer avec les choses plus joyeuses.
Les ondes joyeuses.
Pour finir sur une jolie note positive, parce qu'on approche déjà de la fin, j'aimerais que tu racontes à nos amis un de tes meilleurs souvenirs en tant qu'apprenant du français ou en tant qu'étranger en France.
J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué et c'était à la fin de ma deuxième année à l'école de commerce. C'était à ce moment-là que je parlais déjà assez bien le français parce que j'avais vécu déjà dans la ferme. Dans notre communauté Blabla, il y avait quelques amis que j'avais fait et je leur ai demandé s'ils voudraient m'aider à apprendre le français aux nouveaux étudiants indiens et chinois. Et ils sont passés plusieurs fois dans mon école de commerce pour faire les cours de français gratuits, pour juste être là et pouvoir être abordé par ces étudiants pour pouvoir faire une discussion. Ils parlaient de fromage, du vin en France, de la grammaire. Ils parlaient un peu de tout. C'est eux qui prenaient le temps de choisir le thème et de venir aider les étudiants indiens et chinois. Et ça m'a beaucoup marqué. Ils ont pris 4-5 heures par semaine gratuitement. Je leur ai acheté un pain au chocolat à la fin, mais ils venaient gratuitement. J'ai gardé toujours le lien avec ces gens-là. Et du coup, je me dis que quand on commence à faire un peu d'efforts, les Français sont assez « forgiving ». avec ton niveau de français, même si tu fais des fautes, c'est eux qui vont faire plus d'efforts pour pouvoir t'aider dans ton apprentissage.
Ouais. Ah bah ouais, c'est génial, hein. Franchement, ils ont été hyper sympas. Bravo à eux. Ouais, et sans doute, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils t'ont trouvé sympa et que tu leur as apporté quelque chose que dans leur communauté blabla.
C'est ça.
Et qu'ils ont eu envie de faire quelque chose dans ton sens pour qu'il y ait un échange, quoi.
Ça rajoute sûrement à leur identité aussi. Ils sont maintenant les gens qui aident les étudiants étrangers. Mais je pourrais jamais enlever le fait qu'ils ont rajouté tellement de valeur aux étudiants étrangers qui ont rien demandé. Ils ont juste cliqué sur un bouton sur Facebook et ils ont eu l'accès à ces gens-là qui ont organisé les cours pour eux.
Ouais, c'est génial. Super. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous et d'avoir partagé tout ça, tout ce dont on a parlé dans cet épisode ensemble. C'était vraiment génial. C'était un plaisir de t'avoir.
De rien. Tu attendais que j'y réponds. Je me suis dit, quand tu parlais tout à l'heure, je te coupais beaucoup.
Non.
Du coup, je me suis dit, réponds pas. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la terminer.
Non, non, pas de problème. Bon, les amis, on reste encore un peu avec Josh pour le bonus. Si vous êtes membre, vous allez pouvoir écouter encore un peu plus notre conversation. Et pour les autres, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine et merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, les amis, d'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas parlé très vite. J'essaie de me faire attention, mais des fois, je m'emporte. Bonne journée, soirée, nuitier, matinée à vous. Et à bientôt sur Easy French.